Salut, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat sur topmusic.fr. Igloo, l'émission recommandée par la couche d'ozone et le reste. Cédric Simonin, bonjour.
Si vous le dites bonjour, ça c'est une intro, félicitations. Ah,
c'est de l'info en même temps. Le Mac de l'Habitat, avec parfois des sujets, j'allais dire pointus, mais très que pointu. L'on vulgarise. Par exemple, aujourd'hui, écoutez bien parce que c'est très recherché. Moi déjà, je ne comprends pas tout à fait le titre, mais j'espère qu'à la fin de cette émission, j'aurai tout compris.
C'est certain.
Les servitudes de vue, les servitudes de tour d'échelle. Bravo pour le titre déjà. Et bonjour David Gillig.
Bonjour Eric.
Comment ça va?
Super, depuis toujours très mois. Agréable d'être en vos locaux.
Ah ben, très agréable de vous recevoir. Surtout avec ce type d'émission, moi je m'éclate comme un fou. Voici donc cette émission autour des servitudes de vue et des servitudes autour d'échelle. David Gillig, pardon, je rappelle que vous êtes avocat en droit de l'urbanisme. Ce qui est bien pour répondre à ce genre de questions.
Au mieux.
Et vous êtes avocat associé du cabinet Solaire Couteau et associé depuis 2003. Alors, servitude de vue, servitude de tour d'échelle. Messieurs, allez-y, faites-vous plaisir.
Voilà, deux sujets qui sont très intéressants, ah ouais, qui vont passionner. Mais en fait, ce sont les sujets qui sont concrets, récurrents et extrêmement fréquents. Donc, rien à voir avec une pub pour Laura Merlin ou Afflelou, vous voyez. Donc, on va commencer par la servitude de tour d'échelle.
Je sens que cette année, vous bossez vos lancements, mais beaucoup plus.
Donc
la saison 4, là, d'un coup, là, tac.
Surtout sur des sujets comme ça.
Mais vous auriez dû les bosser lors des trois saisons précédentes parce que vous êtes très bon.
Bah, personne n'est parfait. Hein. Bon, soyons sérieux. Maître, une servitude de tour d'échelle, qu'est-ce que c'est?
Monsieur Simonin.
On dirait Giscard.
Non, les sérieux, sérieux.
Allez, sérieux,
en fait,
sérieux,
servitude de tour d'échelle, c'est un droit temporaire et limité qui est donné en quelque sorte à un constructeur pour réaliser des travaux sur une construction existante. Vous avez besoin de mettre un enduit dans le cadre du ravalement de la façade de votre bâtiment. Vous ne pouvez pas, depuis votre fonds, réaliser ces travaux. Vous avez le droit de demander effectivement un droit qui est celui qui vous permet de réaliser ces travaux en empiétant sur le fonds du voisin.
Donc, très fréquent quand on a des constructions sur limite de propriété du voisin.
Absolument. Le cas classique, c'est effectivement une construction qui est sur limite séparative de propriété. Dans un premier temps, ce droit a été uniquement consacré pour des travaux sur un bâtiment existant. La jurisprudence, depuis un certain nombre d'années, semble admettre que l'on puisse également, à l'occasion d'une nouvelle construction, effectivement, pouvoir bénéficier de ce droit temporaire et limité.
Mais on ne saccage pas le terrain du voisin.
On ne peut pas, effectivement... on peut, mais la difficulté, c'est que si on réalise des travaux et qu'on génère des dommages sur le fonds du propriétaire voisin, il va vous assigner devant le tribunal et donc demander la réparation du préjudice qu'il a subi.
Voilà.
Alors, logiquement, on demande l'autorisation au voisin, il n'est pas d'accord. Comment on règle cette problématique?
Alors ça, c'est un cas qui est assez fréquent parce qu'on a malheureusement trop souvent des conflits de voisinage. Le propriétaire voisin qui ne souhaite pas te faire de cadeau, si je puis m'exprimer ainsi, à celui qui vient d'obtenir une autorisation ou qui est en train de réaliser des travaux sur un bâtiment existant, il refuse de donner son autorisation. La seule solution qui est à la disposition de celui qui souhaite réaliser les travaux, c'est de saisir le tribunal. Idéalement, il va saisir ce que l'on appelle le juge des référés. C'est un juge de l'urgence qu'il va saisir pour obtenir l'autorisation d'empiéter sur le fonds du voisin pour réaliser les travaux. Attention, le juge est quand même très réticent pour admettre d'accorder cette autorisation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est sur un problème, une problématique de droit de propriété. Or, vous savez comme moi que le droit de propriété, c'est un droit qui est sacré, etc. Donc, pour pouvoir porter atteinte à ce droit, il faut vraiment des conditions très particulières. Conditions particulières lesquelles? Il faut qu'il n'y ait pas d'autre solution technique pour pouvoir réaliser les travaux. Si on a une solution technique qui permet de réaliser les travaux, on n'a pas besoin, évidemment, d'aller empiéter sur le fonds du voisin. Ou alors, si le coût de la mise en œuvre de la solution technique est totalement disproportionné par rapport à la nature des travaux.
Est-ce que il faut produire dans ce cas-là l'avis d'un professionnel expert?
Oui, je le recommande très vivement. Vous devez effectivement vous entourer d'un avis qui a été établi soit par un architecte, soit par un bureau d'études techniques qui va effectivement certifier qu'il n'y a pas d'autre solution technique pour réaliser vos travaux qu'en passant chez le voisin ou que le coût de la mise en œuvre de la solution technique, encore une fois, représenterait 5 fois ou 10 fois la valeur des travaux à réaliser.
Et est-ce que le voisin peut exiger une indemnité ?
Absolument. Devant le juge judiciaire, et c'est le juge judiciaire qui finalement fixera le montant de l'indemnisation, le propriétaire voisin pourra demander la compensation du préjudice. Alors, les chiffres qu'on peut annoncer au regard de la jurisprudence, il y a des cas où on a admis qu'on puisse obtenir, en fonction de la durée de l'empiètement, entre 800 et 1000 euros par mois d'occupation du fonds voisin.
Oui, sans prendre en compte les éventuellement dégâts et dégradations causées par...
Tout à fait, qui, elles, donnent lieu effectivement à une indemnisation complémentaire et autonome.
Est-ce qu'il y a des démarches particulières? Et vous, en tant qu'avocat, quels sont les conseils que vous pourriez donner?
Comme toujours, pour s'entendre bien avec le voisinage, la démarche que je peux évidemment conseiller d'entreprendre, c'est d'aller voir le voisin avant de faire quoi que ce soit, d'aller le rencontrer pour lui expliquer la situation, le cas échéant avec cet avis du bureau d'études techniques ou d'un architecte, en disant qu'il n'y a pas d'autre solution alternative que d'aller sur sa propriété, lui indiquer la nature des travaux qui seront réalisés, lui indiquer la durée prévisionnelle des travaux et lui indiquer finalement la solution qui sera proposée. Ça pourrait être une solution par le haut, via effectivement des treillis, soit une solution au sol par la mise en place d'échafaudage.
Ok. On passe à la deuxième servitude, la servitude de vue. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà une définition de ce que c'est ?
Bien sûr, alors une servitude de vue, en réalité, elle a une double signification. Je ne peux pas réaliser un balcon, je ne peux pas réaliser une fenêtre qui donne une ouverture à moins d'1,90 m du fond voisin. Ça, c'est, on n'a pas le droit de le faire, c'est l'article 678 du Code civil qui l'interdit. Inversement, on ne peut pas réaliser une construction qui viendrait en quelque sorte supprimer une vue que le voisin a sur notre propre fond. Exemple classique, il y a plus de 30 ans, j'ai réalisé une ouverture en limite séparative de propriété, j'ai une vue sur le fond voisin, vous obtenez un permis de construire, ce permis de construire prévoit l'implantation d'un bâtiment qui est à moins d'1,90 m de ma fenêtre, c'est la violation d'une vue.
Donc ça c'est le droit, il y a des devoirs qui sont associés à...
Alors si vous voulez, le devoir c'est encore une fois de respecter cette règle de retrait d'1,90 m.
D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le distinguo, parce qu'on le voit souvent, vous savez, ces murs en briques de verre, etc. Est-ce qu'on peut faire le distinguo entre cette servitude de vue et ces fameux murs en briques de verre
Bien sûr, donc ce qu'on appelle les pavés ou les briques de verre, effectivement, ça ne crée pas au sens juridique une véritable vue. C'est simplement un moyen d'obtenir le passage de la lumière, donc ce n'est pas assimilable à un droit de vue, de sorte qu'un constructeur peut valablement, si vous voulez, s'appuyer sur un bâtiment qui bénéficie d'une brique de verre, de la même manière que celui qui souhaite construire en limite séparative de propriété peut parfaitement mettre une brique de verre sans que ça constitue la violation d'une servitude de vue.
D'accord.
Et si par exemple un constructeur vient supprimer cette brique de verre en s'implantant finalement devant, on n'obtiendra pas la démolition du bâtiment. Au pire, le constructeur sera condamné à verser des dommages et intérêts, puisqu'effectivement, celui qui jusqu'à présent avait un puits de lumière, ce puits de lumière, il ne l'aura plus.
Et ça arrive aussi.
Très fréquemment.
Alors, même question que précédemment, quels sont les conseils que vous pourriez donner dans ces cas-là ?
Toujours les mêmes conseils. Alors là, il faut vraiment s'entourer de conseils au départ vis-à-vis des notaires, de vraiment vérifier qu'il n'y a pas des vues qui existent sur le fond voisin. J'ai vu trop souvent dans ma carrière professionnelle des promoteurs qui ont obtenu des autorisations d'urbanisme. Personne n'était allé vérifier qu'il y avait une vue qui avait été acquise par prescription. Vous avez probablement déjà entendu cette notion de prescription acquisitive, c'est-à-dire de pouvoir acquérir un droit par prescription au bout de 30 ans. Malheureusement, le constructeur n'a pas vérifié l'existence d'une servitude. Il démarre le chantier. Le voisin vient devant le juge judiciaire en disant « En réalité, je bénéficie d'une servitude de vue. Je vous demande de démolir la partie de votre construction qui viole ce droit de vue. »
Voilà, c'est là que les ennuis commencent, mais c'est là aussi que vous intervenez.
Oui, mais souvent, malheureusement, comme pompier, quand le mal est fait, c'est extrêmement compliqué. Souvent, ça se traduit en une transaction sur des montants extrêmement importants, parce que le constructeur, qui n'était pas prévu, parce que le constructeur fait le calcul entre devoir démolir le bâtiment ou devoir indemniser, le calcul est souvent rapidement fait.
Merci maître, vous revenez quand vous voulez dans cette émission, vous savez, vous êtes chez vous comme tous nos invités, comme tous nos experts.
Claire.
Cédric Simonin, merci, l'émission on la retrouve sur Facebook, Igloo en Air, sur le site de Trianon Résidence, trianonresidence.fr, et puis évidemment sur la chaîne YouTube, sur topmusique.fr, et toutes les plateformes de podcast. Si on revient un petit peu en arrière, ça fait 4 saisons, on a plus de 130 émissions maintenant.
C'est ça.
Et donc il y a de quoi faire, puis les émissions elles ne se démodent pas toutes. Hein, y a évidemment des émissions sur le crédit, par exemple, ça se démode, mais il y en a d'autres. Celle-là, par exemple, on pourra la regarder, l'écouter dans 5 ans. Mmh. Enfin, à moins que les lois changent. Encore.
Ça ne changera pas parce qu'en réalité, on est sur le code napoléonien de 1804, qui évolue très peu.
Ah bah, très bien. Donc on pourra l'écouter dans 100 ans. Merci, messieurs, à très vite.
Avec plaisir. Au revoir.